Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bref, we don't get nothing.
Oh là là. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast.
On est en roue libre, enfin pas tout à fait, parce que là on va s'intéresser à l'UFC Vegas number 36. Il y avait Paddy Pimblett qui faisait ses débuts à l'UFC. Rust a un nouveau chouchou, puisque ça y est, Darren Till officiellement
non.
Rest in Pieces.
Non.
Qui a perdu donc par soumission contre Derek Brunson. On va s'intéresser à tout ça, mais avant Rust, lançons le générique.
Grave.
Swear. Alors, Paddy le Bally Pimblett. Qui affrontait Luigi Vendramini. Donc Luigi Vendramini que vous connaissez, puisque il avait affronté assez récemment Faresiam, il s'est incliné, et là il affrontait donc Paddy de Bally Pimblett, Ben, donc notre cher Big Ben apprécie particulièrement Paddy Pimblett qui a d'abord primé, ensuite Rust a dit il est game. Alors Rust, qu'est-ce que ça veut dire il est game?
Bah ça c'est quand t'es un peu un mec stylé, tu utilises des termes comme ça qui sont un peu entre l'anglais et l'anglais tout court d'ailleurs. Mais oui c'est vrai, en fait Ben, c'était assez marrant parce qu'on a eu ensuite, les textes, tu sais, les uns après les autres de Ben, et c'était non, juste après ouais non, enfin c'était vraiment mais une espèce de montagne russe, c'était extraordinaire. Mais du coup effectivement c'était ça en fait. Paddy Pimblett, c'est un gars, je sais pas jusqu'où il va aller, mais en tout cas, il y a un truc qui est sûr, ce sera mais le feu pendant tout le temps où il sera là, en fait. Parce que c'est ça, Paddy Pimblett, c'est un mec... Bon, déjà, il a un menton, oui, il prend des coups, et là, il a pris assez cher, mais en fait, j'ai l'impression qu'il a une capacité de récupération, c'est un truc de ouf. Ce qui fait que, ben, il s'est fait très peur quand même, je pense, mais malgré tout, ben, il est revenu, et il a fait une des performances qui était littéralement les plus mémorables de l'événement, quoi. Donc, on n'a même pas vu son sol. Là, c'était 100% du striking. Il a un striking, on l'avait dit, qui est assez peu académique, mais on a vu qu'il avait un super coup d'œil. Il arrivait à placer des coups qui sont vraiment des coups au coup d'œil, où c'est du placement, il voit une ouverture, il place un crochet gauche, etc. Enfin, c'était assez beau, mais... C'est tellement étrange, la garde, ou je devrais dire l'absence de garde qu'il a en striking, son menton est littéralement mais flottant au vent H24. Donc c'est, il y a plein de trucs où tu te dis mais c'est pas possible, contre un sniper il va finir par se faire vraiment éliminer. Mais sur des combats comme ça par contre, enfin, où il arrive à trouver le moyen de revenir, où il fait une performance comme ça, ça fait des combats mais... C'était incroyable, on était devant, on a vécu toutes les émotions à peu près, quoi.
Mais surtout, Rust, peut-être qu'il a ce menton de cette manière-là parce qu'il ne peut pas être mis KO, tout simplement.
We don't get knocked out.
Parce que si, oui, il y a l'après-combat qui était légendaire parce qu'il a eu, déjà, il y a eu coup de chapeau quand même à Paddy Pimblett, mais surtout, il était interviewé par Michael Bisping.
Il est parfait, en fait. Derrière un micro, alors en tant que combattant, clairement, il est ultra talentueux, mais alors... Ce qui va faire de lui une superstar, c'est que derrière un micro, c'est du Mozart. Enfin, il a tellement de charisme, tellement, je pense, on l'a pas entendu, mais de répartie, à mon avis, quand il y aura des échanges avec des futurs adversaires, ça va être extraordinaire. Il a tellement confiance en lui. C'est ça. Il est game. C'est vraiment.
Il est fly.
Il est très très fly. C'est que vraiment, en fait, il est très bon combattant. Très bon combattant, très talentueux, et beaucoup d'analystes voient en lui quelque chose de spécial. Donc, même des analystes anglophones et tout. Donc, à mon avis, quand on va se plonger vraiment dans vraiment poncer. Quoi ?
C'est poursuivi.
Quand on va vraiment se plonger dans les analyses, qu'on va aller revoir tous les combats genre en détail, en vraiment les analysant et tout du Cage Warriors, de... je pense qu'effectivement il y a des trucs qui doivent nous échapper parce que vraiment tout le monde a l'air de dire là il y a quelque chose de très 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 spécial. On l'avait dit, c'était un peu désarmant son côté très peu académique en striking. T'as un peu l'impression que c'est des trucs c'est pas ce que t'apprendrais genre direct, etc., au niveau des déplacements, au niveau de la garde, etc. Mais si ça marche pour lui, ben c'est comme d'hab, quoi. C'est comme Wilder, c'est, si ça marche pour lui, ça marche quoi.
Après, moi, ce que je trouve quand même inquiétant, c'est que là c'était que Luigi Vendramini et il est vraiment pas passé loin.
C'est ça le problème.
Au moment en plus, donc il se fait sonner sur un crochet en contre, ensuite Luigi Vendramini, qui en plus suit très bien parce qu'il change de niveau, l'amène au sol, tente la soumission, ça ne ensuite il y a une petite phase de ground and pound, il tente la soumission, ça ne passe pas, et là ensuite le combat revient debout. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas rassurant pour autant, et jusqu'à ce que justement il réussisse le KO, certes il avançait mais il se prenait aussi pas mal de coups, et ce n'était que Luigi Vendramini.
C'est ça le problème en fait, c'est que c'est lightweight en plus, c'est lightweight.
Est-il donc vraiment gay?
Bah, on le saura vite en fait, c'est ça qui est bien, c'est que bonne transition avec ce qu'on disait juste avant, mais comme il a là, cette performance-là, je pense que les gens qui regardaient l'UFC, même s'ils ne connaissaient pas Paddy Pimblett, 1, le look, 2, la confiance en lui, 3, le combat en lui-même qui était délirant, tu ressors de l'UFC, même si tu n'étais pas fan, tu ressors de là, tu connais le nom de Paddy Pimblett, en fait. Donc, c'est aussi l'avantage, c'est que là, l'UFC, entre guillemets, va pas avoir le choix, je pense, que de lui mettre quelqu'un qui a au moins un petit nom. Et donc, probablement que le niveau va vraiment monter d'un seul coup aussi, c'est probable. Ils ont plusieurs options, hein. L'UFC, ils peuvent aussi lui mettre quelqu'un qui est encore très loin derrière pour, entre guillemets, entretenir un peu un highlight et vraiment mettre en confiance et en profiter un petit peu du momentum, enfin dans le sens de l'inertie qu'a Paddy Pimblett en ce moment. Mais effectivement, s'il tombe contre un vrai striker d'élite ou, mettons, un gros lutteur, on ne sait pas. Ça se trouve, il va très bien se débrouiller, mais je serais très curieux quand même. Parce qu'effectivement, on a vu des prémices de ce qui pourrait poser problème.
À Paris, de Paddy Pimblett. Mais en tout cas, franchement, ouais, super début à l'UFC, en tout cas parce qu'il a fait le show. C'est surtout ça qu'on retiendra, parce que là, vraiment, les gens vont se souvenir de cette performance et surtout de ce combat-là. Et tout à l'heure, Rustin a rebondi là-dessus, mais c'est vrai que moi, je disais, il était interviewé par Michael Bisping, mais Bisping a été génial aussi.
Oh, les deux. Non, mais c'est deux Anglais, tu sais qu'il va y avoir un petit peu de... Ça va jouer, quoi. Et donc c'était parfait, c'est vrai que c'est quoi déjà, c'était t'as vu ça, une je sais plus ce qu'il disait exactement, pas Paddy Pimblett, mais une super performance, et t'as Bisping qui disait ouais t'as quand même été presque mis KO, enfin mais en rigolant, c'était parfait. Et c'est là où tu vois que c'est vraiment, cette interview là va devenir culte déjà, ou au moins ne serait-ce qu'elle va être réutilisée à mort jusqu'au prochain combat de Paddy Pimblett. Je pense, j'ai pas encore été voir, mais je pense que les chiffres sur The MacLife ou sur les autres chaînes YouTube de l'UFC, je pense que ça a dû exploser à mon avis. Il a dû faire une conférence de presse d'après combat, je suis sûr et certain que ça a dû exploser aussi. Donc là, on a vraiment la confirmation que ça fait partie aujourd'hui en fait. Savoir se vendre, ça fait partie du MMA, du au plus haut niveau. Paddy Pimblett, littéralement, il a quoi? Il a 26? Il a, je crois qu'il a 26 et il est en train de... Mais après, c'est est-ce que tu as une personnalité ou pas, mais il est en train de donner une leçon de se vendre et de marketer, de se marketer soi-même, qui est magique, quoi. Parce que là, en l'espace de quelques phrases, de quelques punchlines, de quelques...
26 ans.
26. En l'espace de quelques flashs de sa personnalité qui est absolument haut en couleur et incroyable, ben là, il vient de s'assurer probablement de nouveaux sponsors, il vient probablement de s'assurer effectivement un de très bonnes relations avec le staff de Matchmaker et de l'UFC. Donc, et on le sait, c'est pas anodin. Hein. Enfin, McGregor, qui, alors, même après ses tout premiers combats, il allait fêter avec un toast de whisky les victoires avec Dana White et Fertitta, etc. Quand tu te mets toi-même en avant comme ça, que tu sais te vendre, que tu as une personnalité incroyable et donc que tu fais comprendre à l'UFC, bah les gars, clairement, là, vous avez quelqu'un. Et c'est même pas subtil, hein. Il le dit, Paddy Pimblett. I'm the new lad, tu vois. Donc, c'est une leçon de tous les côtés. Il n'y a plus qu'à espérer effectivement que ça ne s'arrête pas d'un coup d'un seul au prochain combat, quoi.
Ce qui est possible. Mais après, je veux dire, c'est un mec, vous pouvez d'ailleurs nous en parler aussi. À mon sens, il est victoire ou défaite, peu importe. C'est un peu un Mike Perry, tu vois. Mike Perry, ou même dans un style différent complètement, mais un Bobby Green. Mm-hmm. En gros, le mec peut perdre 3, 4, 5 fois, c'est pas grave. Parce que tu sais que ça va toujours être le show. Et surtout, soit il se fait mettre KO, soit il met les mecs KO. Enfin, en tout cas, les gens vont passer un moment de vrai divertissement.
Ouais, c'est ça. Bah, en fait, là, il est déjà sur ce rail-là, en fait, de Paddy Pimblett sur une carte. C'est l'assurance que tu vas avoir du show, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est tellement valorisable pour l'UFC que forcément les retombées elles vont être positives de tous les côtés, et dont Paddy Pimblett. Enfin, c'est cool, tout le monde y gagne en fait. La naissance d'une star comme ça, tout le monde y gagne. Nous, l'UFC, lui, tout le monde.
Vous?
Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai.
What's next pour Paddy the Paddy Pimblett?
Tu m'avais posé la question tout à l'heure déjà en off, par curiosité, je n'ai pas réfléchi encore, mais je sais que toi t'avais une idée.
Et non, l'idée est tombée à l'eau. Ah. Parce qu'il a un combat prévu prochainement. Moi, j'aurais bien vu Lando Vanata.
Oh, j'avoue, nice. Il combat qui bientôt?
Il combat alors quelqu'un dont je n'ai pas le nom, mais qui est sur une bonne série de victoires. Donc, ça va être assez compliqué. Ouais, mais il combat en octobre.
Ouais. Lando Vanata, on va venir à Darren Till. Hein, ça peut être la bonne transition, mais pareil, lui, t'as parfois une impression de... Magnifique à regarder quand il est dans un état de flow, mais sauf que il perd ses combats quand même, quoi.
Exactement. Donc ouais, donc Lando Vanata qui affronte voilà Tucker Lutz lors d'un UFC Fight Night le 13 novembre prochain.
Tucker Lutz.
Ouais, Tucker Lutz, 12 ans en carrière.
Dire un nom de perso de jeu vidéo, mais non, c'est pas négatif.
C'est vrai, c'est vrai.
Pourquoi tu dis ça?
Et donc c'est ouais, quelqu'un qui est par contre en pleine bourre, hein, Tucker Lutz, qui est sur une série de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 victoires consécutives.
Mais combien à l'UFC?
Et il a très précisément une victoire à l'UFC, ensuite deux victoires précédentes lors des Contender Series.
Ouais, ça a l'air legit quand même.
Voilà, donc vraisemblablement l'UFC veut un petit peu pousser ce mec-là. Mais voilà, moi j'aurais bien vu Lando Vanata, ce qui reste possible bien évidemment en cas de défaite de Lando Vanata, pour qu'ensuite, pourquoi pas, si l'UFC vient en Europe en janvier, qu'ils mettent Paddy Pimblett contre Lando Vanata en janvier. Après, il peut revenir un peu plus tôt, mais en tout cas, moi j'ai envie de le voir directement en fait contre des mecs assez fun. Là, ok, il y a eu Luigi Vendramini, je pense que l'UFC et Matchmaker se disent très clairement bon, on a un mec qui certes est une véritable attraction médiatique, mais c'est un peu dur ce que je veux dire, mais qui peut perdre contre n'importe quel mec de notre roster. Donc, s'il doit perdre, autant qu'il perde dans un combat fun. Ou regardez par exemple Bobby Green, qui a perdu contre Fiziev. Là, Bobby Green, il revient contre Alia Quinta.
Eh oui!
Donc en soi, oui. Quand tu regardes des classements, certes, Alia Quinta était inactif, mais au niveau des rankings, Alia Quinta, avant de partir, était mieux classé que Fiziev. Donc finalement, en ayant fait un combat extrêmement courageux contre Fiziev, où il a clairement été dominé, mais il a tout le temps avancé, il a perdu par décision unanime. Mais là, aujourd'hui, avec ce combat-là, il est récompensé en ayant un combat contre Alia Quinta. Et je pense que, là, avec Paddy Pimblett, à mon avis, l'UFC devrait avoir cette approche-là, tu vois, de se dire, on va pas lui mettre des tours à gages, mais au moins des gars où, si tu perds, c'est pas grave, ça va pas entacher ta valeur, entre guillemets, en tant que combattant.
Complètement, ouais. Non, ça a carrément du sens. Du coup, j'ai pas forcément de nom qui me vient en tête, mais en tout cas, je suis absolument d'accord.
À suivre. Maintenant, on va passer
à ce qui fait mal.
À ce qui fait très très mal à Rust, c'est Darren Till. Bravo à Polydomso, c'est lui qui a eu raison sur ce pronostic.
Absolument.
Parce qu'on voyait tous les deux une victoire de Darren Till.
Ouais.
Je ne m'attendais pas à ce que Derek Brunson arrive autant à mettre en application sa lutte et à ce que Darren Till soit surtout sans réponse face à celle-ci. Et bravo en tout cas à Derek Brunson, 5 victoires consécutives depuis sa défaite face à Israel Adesanya. Maintenant, il fait campagne pour un title shot qui, après Robert Whittaker, ne me dérangerait pas. Mais là, on s'intéresse surtout à Darren Till, parce que si tout va bien pour Derek Brunson, là, Darren Till, ça a une seule victoire chez les middleweight.
C'est chaud. Non, c'est très très chaud. En fait, c'est très très chaud, mais c'est vrai, la seule conclusion qu'on peut avoir de ce combat, c'est bravo à Derek Brunson, en fait. Enfin, parce que c'est vrai que c'était l'inconnu, c'était de se dire, est-ce que Darren Till va pouvoir arrêter les takedowns, ou au moins, s'il est mis au sol, se relever facilement, comme ce qu'il avait montré qu'il était capable de faire précédemment, même en middleweight. Mais force a été de constater que la réponse est non, en fait. Et que les derniers combats avec Gastelum et Whittaker, il a pu se relever, mais donc peut-être aussi parce que Gastelum et Whittaker n'avaient pas de volonté nécessairement de maintenir au sol n'avait pas forcément de volonté de le maintenir au sol, et le pedigree de lutteur, et particulièrement de lutteur en enchaînement de Derrick Brunson. Donc, en fait, on a eu la réponse, quoi, qui est, ça me fait mal au cœur, mais il était, même au niveau de la, il y a de la technique, c'est clair, le premier double leg, la première amenée au sol de Derrick Brunson, où il plonge vraiment en mode laser takedown dans les jambes, et où il le met au sol sans difficulté, elle est somptueuse, la mise au sol, elle est incroyable. C'est trop beau, quoi. Mais même dans le second round, en fait, quand c'est du clinch au milieu de la cage, Darren Till n'a pas trop de soucis. Mais par contre, quand c'est contre la cage, c'est littéralement un compte à rebours avant que Darren Till se fasse out-techniquer, out-power, qu'il se fasse prendre de puissance, prendre par la technique de Derrick Brunson. Et du coup, le résultat était en somme toute logique. C'est pour ça qu'en fait, oui, j'ai un pincement au cœur parce que j'adore Darren Till et sa personnalité et son style de combat, mais là on peut pas vraiment être c'est logique en fait ce qui s'est passé. Du coup, c'est difficile d'être ronchon, de pas être content, parce que on ne peut que dire bravo à Derrick Brunson, en fait, tout simplement. Et ça me frustre parce que on a vu les phases où quand c'était debout, c'est magique, quoi, quand c'est debout, et encore je l'ai trouvé moins bon que d'habitude, Darren Till. Mais voilà, il arrivait à mettre en difficulté dans le second round, il arrivait à mettre bien en difficulté Derrick Brunson. C'est beau ce qu'il fait, en clinch, c'est un ancien Nakmoy, etc. C'est trop beau ce qu'il fait. Mais voilà, visiblement, les limites sont là pour Darren Till, et maintenant elles sont claires et nettes. Et ça m'attriste vraiment, parce que je l'adore et que j'aimerais tellement le voir continuer sa carrière, etc. Mais là, c'est chaud, quoi.
Et que va-t-il se passer pour la suite pour Darren Till ? Parce qu'il était déjà classé derrière Derrick Brunson, je crois qu'il était 6e ou 7e avant le combat.
Oui, 7e, je crois.
Là, qu'est-ce qui peut se passer pour Darren maintenant ? Parce que le problème, c'est que mine de rien, il n'y a pas beaucoup d'activité. La semaine dernière, les combats,
il était beaucoup blessé.
Ouais.
Déjà, peut-être prendre un nom qui est un peu plus abordable. Ça me fait mal, hein. Mais là, clairement, visiblement, il faut qu'il se reconstruise, quoi. Enfin, là, il va falloir qu'il y ait un second souffle dans sa carrière, parce que il a eu le combat contre Woodley, ça s'est mal passé. Ensuite, Masvidal, ça s'est mal passé aussi. Il est monté en middleweight direct et il a pris direct Gastelum, ça s'est bien passé. Mais ensuite, Whittaker, ça s'est mal passé. Enfin, il s'est jamais arrêté, en fait, de prendre des gros noms et d'avoir des résultats qui ne sont pas à la hauteur de ses ambitions. Du coup, le problème, c'est que là, soit il prend du temps, il se reconstruit un petit peu, il prend pour son combat de retour un nom beaucoup plus abordable, quitte à prendre vraiment quelqu'un de pas connu, quoi. Mais maintenant, on en est vraiment là. J'ai plus envie de le voir contre des canonniers, des trucs comme ça, parce que j'ai même plus forcément... Canonnier, peut-être que si, parce que ce serait debout que ça se passerait. Mais je suis plus aussi serein, quoi. Je suis plus aussi serein que je ne l'étais avant de voir effectivement que sa défense de takedown est aussi perméable, visiblement. Et du coup, mais n'empêche que, je sais pas si t'es d'accord, mais j'ai trouvé malgré tout que physiquement il y avait un souci là pour Darren Till.
Complètement, on était avec Ross, c'était surtout dans l'avant-combat, ça s'est confirmé durant le combat, mais on était assez inquiet,
ouais,
de Darren Till, parce que c'est vrai que on n'a pas vraiment eu l'impression. Là aussi, peut-être qu'on est dur avec lui, hein, mais en tout cas, moi, c'est surtout, c'est assez dur ce que je vais dire, mais j'ai pas du tout l'impression qu'il tire profit de sa montée en middleweight pour justement se concentrer sur le sportif. Parce que là, au contraire, c'est pas un Robert Whittaker, si vous voulez, où certes, il a plus à faire des weight cuts hyper impressionnants pour justement avoir à faire le poids. Mais aujourd'hui, Whittaker, vous le regardez, c'est mi-tronc d'arbre, mi-australien, quoi. Là, Darren Till, il y a un petit peu de flabby et c'est assez inquiétant, surtout à son âge en plus.
Je sais pas, parce qu'en fait, il y a un peu de flabby, mais en plus de ça, je l'ai trouvé petit. J'ai trouvé que dans ses combats contre Whittaker et contre Gastelum, il était plus tendu, plus plein, plus épais. Je sais pas si c'est moi, si c'est une vue de l'esprit, mais là, je l'ai vraiment trouvé faible. Mais même pas dans le combat, juste physiquement à l'œil par rapport à ce qu'il est d'habitude.
Un peu Whittaker et Gastelum sont d'anciens welterweight.
Ouais, oui, peut-être, hein. Effectivement, très très bon point. Mais je sais pas, ce qui n'est absolument pas fiable, hein, mais le test à l'œil, même à la pesée, je me souviens qu'on en parlait en mode bizarre quand même. Enfin, il est pas gros là, Darren. Donc je sais pas. Et c'est l'éternel truc, c'est est-ce que c'est une blessure? Peut-être que Covid comme Badr quand il avait combattu avec Bouy, du coup, mais si c'est blessure, ben c'est, ça fait, c'est pas bon signe parce qu'on le sait qu'il est blessé de partout derrière il, mais comme tout le monde. Et du coup, ben, la question c'est si physiquement ça devient même difficile d'arriver en forme, bah. Et...
Oh, elle reste. Ouais, bah après, quand même, Darren Till, ce serait chaud qu'il arrête maintenant.
Non, mais pas arrêter, mais. Mais après. Il faut trouver une solution, quoi. Il faut trouver un truc.
Ne l'a-t-on pas vu trop beau, Darren Till? Parce que je vais. J'ai préparé quelque chose. C'est dur. Enfin, quelque chose que j'ai lu sur les victoires de Darren Till à l'UFC. Premier combat de Darren Till, victoire contre Wendell Oliveira par KO.
Magnifique. Ground and pound avec les coudes somptueux.
Exactement. Wendell Oliveira s'est fait cut de l'UFC juste après. Il a actuellement un bilan de 31 victoires pour 15 défaites. Deuxième combat de Darren Till à l'UFC.
Nicolas Dalby ?
Exactement, le match nul contre Nicolas Dalby. Juste après, Dalby a perdu ses deux prochains combats, a été cuté de l'UFC et est revenu. Actuellement, il a un bilan de 19-4-1 de nos contests. Troisième combat de Darren Till à l'UFC. Contre Ayari, victoire par décision unanime. Darren Till manque le poids de 6 pounds. Ensuite, Ayari a perdu ses deux combats suivants et depuis a été coupé de l'UFC. Quatrième combat de Darren Till, qui était assez beau.
Mais moi, une gifle, ça me fera moins mal.
Contre
Quatrième combat de Darren Till, Wonderboy ? Non.
Bojan.
Velikovski.
Exactement.
Oui. Velikovic, pardon. Ouais.
Victoire par décision unanime. Bojan a perdu ensuite le combat suivant et a été coupé de l'UFC. Il présente actuellement un bilan de 19-10-2. Cinquième combat de Darren Till à l'UFC. Contre Donald Cerrone.
Démonstration.
Démonstration de Darren Till. Depuis, Cerrone présente un bilan de 4 victoires pour 6 défaites et un no contest. Sixième combat de Darren Till à l'UFC. Victoire de Darren Till par décision unanime contre Wonderboy. Darren Till manque le poids de 4,5 pounds. Depuis, Wonderboy est à 2-2.
Ouais.
Septième combat de Darren Till à l'UFC. Darren Till contre Tyrone Woodley par soumission. Depuis, Tyrone Woodley a perdu 5 combats consécutifs.
Oh putain.
Huitième combat de Darren Till à l'UFC. Darren Till perd par
KO. J'ai l'impression de prendre du ground and pound.
Contre Jorge Masvidal. Depuis, Masvidal est à 2-2. Neuvième combat de Darren Till.
Tu prends du plaisir là ?
Ouais, je prends du plaisir. Neuvième combat de Darren Till à l'UFC. Donc Darren Till est en middleweight. Il affronte Kelvin Gastelum et il s'impose par décision partagée.
C'était beau.
C'était beau. Depuis, Gastelum est à 1 victoire pour 3 défaites. Dixième combat de Darren Till à l'UFC. Darren Till perd contre Robert Whittaker par décision unanime.
Magnifique combat.
Et depuis, Robert Whittaker a enchaîné quand même...
3 victoires.
2 victoires, je crois. Et va challenger Israel Adesanya pour la ceinture.
Et le combat était incroyable.
Exactement. Et là, on a cette nouvelle défaite face à Derek Brunson.
Ça n'a... Non, mais c'est ce que tu me disais. C'est...
Et on doit ça à Moonshin Enthusiast, voilà, qui avait fait le petit,
très bien.
La petite analyse.
Ben, donc, ça a très mal vieilli, quoi, tout ça.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En fait, ça a très mal vieilli et je pense que c'est ça, effectivement, qui donne beaucoup, beaucoup de grain à moudre à tous les détracteurs de Darren Till. Et à tous ceux qui disent qu'il est surcoté et qu'il n'a jamais été bon, etc. En fait, pour moi, c'est dur parce que je me fie vraiment à ce que je vois. Et c'est ça qui est, c'est pour ça que je suis devenu fan de Darren Till. C'est parce que je me fie à ce que je vois, en striking, hein, surtout, et en clinch, en termes de Muay Thai, etc. Bah, c'est trop beau, quoi. Mais effectivement, il y a ce qu'on voit qui est beau, mais tu vois, c'est vraiment cool que tu aies fait tout ce récap des différents combats de Darren Till, parce que par exemple, tu vois, même Nicolas Dalby, Jesse Nayari, Velikovic, je me souviens que même à l'époque, déjà, les gens disaient clairement il en a sous le pied, clairement il est facile, mais il ne finit pas là les combats. Enfin, Et bah, moi, j'ai toujours été fervent supporter parce que je me suis dit, bah ouais, mais c'est pas grave, tant que c'est beau, franchement, s'il y a trois rounds au lieu d'une minute et demie, pff, moi je suis content et tout. Mais force est de constater qu'effectivement, bah, ça non plus, ça ne vieillit pas bien. C'est pas le fait qu'il est déjà, effectivement, il a combattu Jesse Nayari, Nicolas Dalby, qui sont des bons combattants, mais il les a pas finis, Vekovic. Il a mis des knockdowns, il a mis des coups de sublime.
Il était blessé aussi.
Il s'était blessé aussi. Mais voilà, il a des moves absolument incroyables, une science du déplacement, du coup d'œil. C'est somptueux. Mais effectivement, il ne les termine pas. Le combat contre Wonderboy, c'est pas non plus un énorme statement. C'est pas non plus une énorme déclaration, quoi. Donc en fait, c'est ce qu'on se disait hier. Mais il n'y a pas eu vraiment une victoire, en fait, à part Donald Cerrone, mais où tu te dis, ok, Darren Till, c'est le futur. Et c'est ça qui me fait vraiment mal au cœur, parce que je vois les compétences, je vois vraiment, quoi qu'on en dise, vraiment, je resterai convaincu à jamais, même si maintenant il se fait que, bon, il sera pas cut, mais même si vraiment ça continue les défaites, etc., que ce que je vois quand je vois les meilleurs moments d'Darren Till, c'est magnifique, en fait. C'est juste somptueux et personne ne le fait aussi bien. Enfin, dans son domaine, parce qu'en tant que striking, il y a Adesanya et tout, mais dans ce qu'il fait, sa manière de se déplacer, je vois pas beaucoup de monde le faire aussi bien, je trouve. Mais
je trouve, moi, personnellement.
Oui, voilà.
Mais pour toi, est-ce que la solution serait pas peut-être tout simplement de changer de team? Parce que c'est quelque chose dont on parle depuis un certain temps, parce que transition trouvée, on pourrait pointer du tout à la Team Cowboy, mais Team Cowboy qui en ce moment a peut-être le plus gros prospect chez les lourds, en tout cas celui le plus chaud, Tom Aspinall, qui a sorti petite masterclass face à Sergey Spivak en co-main event.
Et c'était parfaite transition, puisque même au moment où on était en train de taffer après Badrari, etc., on se disait, bah en fait, Tom Aspinall, il est en train de faire le run qu'aurait dû faire Darren Till, quoi. Et c'est vraiment dur, mais du coup, la comparaison, bah, c'est parce qu'ils sont de la même team aussi, donc forcément, on se repère. Mais là, Tom Aspinall, il est en train de vraiment écarter des contenders qui, bah, certes, Sergey Spivak, c'est pas un mec que les gens connaissent, donc c'est pas forcément un nom ni rien, mais il les écarte avec style et surtout avec maîtrise. Ces enchaînements-là, Tom Aspinall, qui commence par des genoux, et après, tu sais pas d'où ça va venir, mais tu sais que tu vas prendre les essuie-glaces en pierre dans la tronche, C'est flippant, mais c'est magique, c'est incroyable. C'est vraiment un naturel, hein, Thomas Spinal. Enfin, évidemment, il y a du travail derrière, de ouf et tout, mais la manière dont il fait ses enchaînements, les ouvertures qu'il se crée lui-même, hein, parce qu'il met d'abord le coup de genou là, par exemple, à Spivak. Spivak du coup se baisse pour le contrer, et dans le même mouvement avec son coup de genou, même côté en plus. Enfin, vraiment, pour ceux qui font du striking, c'est aberrant, en fait, de faire des trucs comme ça avec autant de facilité. Même côté, bleh, vraiment, mais le coup de coude, enfin vraiment le coup de hache, quoi. C'est incroyable. Et c'est vrai, il a eu le performance de la soirée. D'ailleurs, ça l'a mis
dans tous ses états.
Dans tous ses états. Mais voilà, Tom Aspinall, qui est de la Team Cowboy, donc qui est, j'ai l'impression que c'est surtout striking, Colin Herron. Il est avec Colin Herron. Son père, à Tom Aspinall, s'occupe de tout ce qui est sol avec lui. Mais bah voilà, Tom Aspinall est en train de faire ce que Darren Till aurait dû faire. Alors après, c'est pas facile, mais c'est chez les heavyweights, il y a plus d'espace, quoi. Et même dans la catégorie, en fait, le niveau en compétence est moindre quand même que dans les catégories les plus petites. Mais au niveau, en tout cas, de l'image, c'est voilà, Tom Aspinall est en train de faire ce que Darren aurait dû faire, quoi. Et ça vient d'un fan hardcore, quoi.
Ouais. Qui a d'ailleurs rendu tous ses t-shirts de Darren Till.
J'ai tout brûlé. Non, mais non, je resterai fan quoi qu'il arrive.
Et ça c'est très important, la fidélité, n'oubliez jamais. Bon, bah voilà, on en a fini aujourd'hui, mon cher Rust.
Ouais, on peut juste très vite, tant qu'on y est, tu sais, évoquer quel est le round 3.
Oui, tout. Démolition.
Bah, il y a eu des débats juste après. Alors, parce que du coup, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu le combat, en fait, Khalil Round 3, il a mis. C'est un KO, j'imagine, KO technique, hein. Mais en gros, il a démantelé la jambe de son adversaire sur un. C'est une espèce de sidekick, enfin, c'est ouais, un truc un peu comme la savate, quoi. Oblique kick. En fait, ils appellent ça oblique kick, mais je suis toujours un peu perdu parce que ça a l'air d'être un sidekick, hein. Les oblique kicks, c'est comme ce qui était la spécialité de Lawrence Larkin, en fait. C'est vraiment. C'est pas comme ça de côté, c'est vraiment. Tu viens ici et tu viens même comme ça de face avec ton pied. J'espère que c'était pas dégueulasse. Mais donc, enfin, quelle que soit la dénomination de ce coup, toujours est-il que il l'a placé dans un échange à son adversaire Modestas Bukovskas, et visiblement ça a fait du dégât. Donc le combat a été arrêté parce que le mec visiblement s'est fait démonter le genou. Et il y a eu un débat en fait sur est-ce que ce coup-là est sale. Et
après il y en a à chaque fois qu'il y a des blessures de ce type. Robert Whittaker contre Yoel Romero.
C'est ça. En fait, c'est ça. Et Yoel Romero, dans le premier combat, c'est comme ça qu'il a niqué le genou, pardon, qu'il a explosé le genou deux fois de Robert Whittaker. Et c'est comme c'est ce qu'a utilisé Whittaker lors du deuxième combat. Donc en fait, c'est un peu toujours le problème. C'est on est toujours en mode c'est dirty, c'est sale, c'est sale. Mais ben, tant qu'il se passe rien, ça passe. Mais là, c'est Kyle Rountree. Mais si ça se fait à un moment donné, t'imagines sur un main event.
Conor McGregor, Dustin Poirier. Non, mais dans le sens, tu vois, s'il se passe.
Oui, voilà, oui, grave. T'imagines, genre un combat de ouf et ça se termine comme ça. Enfin, c'est très anticlimatique, quoi.
Et puis surtout, un truc volontaire de ce type-là. Parce qu'après, la conférence de presse, même la post-fight interview, en mode bon, bah t'as gagné, t'as fait ce que tu voulais, mais bah, t'as quand même explosé le genou du mec, quoi.
Ouais, et puis en fait. C'est assez intéressant le débat, bah, dites-nous d'ailleurs ce que vous en pensez, enfin, mais il y en a qui disent bah, c'est du MMA en fait, donc à un moment donné si t'as le droit de mettre genre le plus vite possible ton tibia dans la tempe d'un mec, bon en soi bah, craquer le genou c'est pas forcément plus vulgaire quoi. Et il y en a qui disent le problème, donc de l'autre côté le problème c'est que c'est quelque chose qui peut vraiment mettre fin à des carrières en fait, et qui est un move qui... Si on l'enlève, ça enlève pas de spectacle, ça enlève pas de... Tout ce que ça enlève, c'est la possibilité d'exploser des genoux à des contenders. Donc en fait, il y a vraiment deux factions. Le débat est assez intéressant. Je crois avoir vu passer sur Twitter Fernand qui disait que bah, c'est du MMA, ne le faites pas à l'entraînement, mais bah, pourquoi est-ce qu'on l'interdirait en combat, c'est, voilà. Mais...
Non, mais moi, je partage ça, en fait. C'est... Tout dépend de la manière avec laquelle le combattant veut gagner, tu vois. C'est comme par exemple quand il y a les gens qui disent qu'en Francis il met KO un mec et qu'ensuite Francis systématiquement il va suivre avec les frappes au sol. Bah, Francis il sait pas au moment où il met la frappe si le mec est effectivement mis KO. Il y a plein de cas où les gars mettent knockdown le gars, ils auraient pu suivre au sol. Par exemple, Sean O'Malley, le mec n'est pas KO et le combat se poursuit, c'est plus difficile que prévu. Sauf que, bah ok, il y a plus de panache, il n'y a pas ce côté. Vous frappez un homme au sol qui est en plus visiblement assez amoindri, mais sauf que bah vous laissez une chance au gars. Donc tout dépend un peu de l'approche, et c'est vrai que si le mec ne fait jamais ça, bah il va toujours gagner en s'attirant les louanges d'absolument tout le monde. Mais quand il y a des enjeux, quand il y a des combats pour le titre, Yoel Romero Whittaker, c'est pour la ceinture middleweight. Bon, est-ce que tu veux te dire bah t'as joué tout le temps dans... Enfin, il y avait cette règle là, mais t'as jamais touché la ceinture de ta vie, ou ok, il y avait potentiellement ce truc là. Et on peut aussi mettre même dans le même panier Aljamain Sterling, tu vois, qui a fait une sacrée performance contre Petr Yan, où là aussi il a remporté la ceinture. Il y avait cette règle là où ok, tu te prends un coup qui est illégal, tu peux faire en sorte de... Anthony Smith contre John Jones, il aurait très bien pu, parce que le bruit que ça a fait, ça a résonné dans tout la team Mobile Arena, alors que le mec était en plus là, vraiment la différence d'Aljamain Sterling, où c'était il perdait mais c'était un petit peu plus disputé. Anthony Smith il se faisait rouler dessus contre John Jones. Il aurait vraiment pu jouer la comédie et remporter la ceinture, tu vois. Mais il l'a pas fait. Sauf que, bah aujourd'hui, je pense que, ok, ça aurait été un champion non légitime, mais au niveau du salaire, au niveau de la revanche, même tout dans sa vie, il aurait mis et des sponsoring, parce que la revanche aurait été hyper lucrative, il aurait mis sa famille à l'abri à tout jamais. Alors qu'aujourd'hui, certes, il va être main event contre Spann, mais c'est plus du tout la même chose aujourd'hui, Anthony Smith. Et surtout, il a plus du tout ce côté, il peut pas dire. Je suis ancien champion UFC.
Bah, c'est clair. Là, franchement, ça, c'est un débat qui pourrait vraiment durer des heures. Parce que c'est vrai que... Est-ce que tu veux devenir champion de cette manière, comme Aljamain Sterling, mais vraiment te mettre une majorité de fans à dos ? Bah, visiblement, Anthony Smith, non. Mais c'est vrai que c'est difficile de immédiatement, comme ça, de dire un côté ou l'autre a raison, parce que c'est vrai. Enfin...
Pour moi, à la rigueur, tu vois, pour qu'il y ait un truc définitif, il faudrait que tu autorises le truc, mais en fait, tu sais, les combattants se mettent d'accord avant le combat. Tu sais, t'as juste une clause dans le contrat, et les mecs disent, est-ce qu'on a le droit de faire ça ? Et si les mecs sont OK, bah allez, c'est parti, full blast.
Bah ouais, après, théoriquement, c'est déjà... Enfin, c'est comme c'est illégal, théoriquement... Mais c'est vrai qu'il faudrait que ce soit genre clair entre les combattants.
Pour ce qu'a fait Rountree.
Ah oui,
où
oui.
Tu dis justement, est-ce qu'on a le droit de faire ça ?
Ouais. Et donc c'est autorisé pour l'instant, de toute façon.
Ouais. Ah oui, c'est autorisé. Ouais. Mais parce que là aussi, par exemple, prenez le cas de Robert Whittaker. Robert Whittaker qui se fait flinguer le genou. Après, il dit ouais, c'était un petit coup de pute de la part de Yoel Romero et tout. Lors de la revanche, il y en a un qui les a salement utilisés, c'était Robert Whittaker.
Et avec un plaisir non dissimulé en conférence de presse, quand on lui dit apparemment, dis donc, ça a bien marché les low kicks sur les genoux de Romero, la réaction de Whittaker c'était oh, oh really? Enfin, c'était trop stylé. Moi, de toute façon, pareil, je suis fan de Whittaker. Mais c'est, ouais, ça dépend de comment tu vois un combat, ça dépend de comment tu vois l'avenir aussi, parce que c'est vrai que ça se trouve, Anthony Smith le regrette. Hein, c'est horrible, mais ça se trouve, il le regrette, tu vois. Donc, je sais pas.
Donc, bon, c'est assez compliqué. Il y a différents arguments. Et honnêtement, là, encore une fois, hein, vous pouvez dire, ouais, mais il y a l'honneur, il y a tout ça. À la fin des fins, le mec a été couvert de louanges sur Twitter l'espace d'une soirée. C'est pas ça qui va lui payer sa baraque. Ce qui va lui payer sa baraque, c'est ce qu'a fait Aljamain Sterling, où là, il sécurise la revanche, le salaire de champion, et en plus, ensuite, bah, il va toujours pouvoir dire ancien champion UFC. Et petit à petit, les gens l'oublient aussi. Hein. Il y aura que les, enfin, ceux qui ont vraiment vu les combats qui pourront dire, ah, il a gagné de cette manière. Parce que même nous, là, quand on parlait de Dalby contre Darren Till, on a fait, ah oui, il y avait eu la blessure aussi.
Mais d'un autre côté, bon, on va essayer de pas tirer trop ce podcast, mais c'est vrai, mais d'un autre côté, Rémi Bonjasky. Rémi Bonjasky, légende absolue du K1, légende, 3 K1 remportés, combattant de légende.
Tout ce qui est dit avant le mais ne compte jamais.
Donc je vais pas dire mais. Rémi Bonjasky, légende absolue du K1.
Cependant,
ni oui ni non. Qu'il a fait lors de la finale du K1 contre Badrari, bah, aujourd'hui encore, beaucoup de gens s'en souviennent quand même. Et en fait, comme ça a impacté sur le moment la manière dont ils considèrent le combattant en question, bah, ça va impacter pour le restant de leur vie. Ils vont avoir ce doute. Quand ils vont voir la personne, Aljamain Sterling ou Rémi Bonjasky ou quoi que ce soit, apparaître à la télé, ils vont avoir direct en mode « c'est lui ». Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc à voir si tu values l'honneur ou si tu values le fait de mettre ta famille à l'abri. Et je dis pas du tout, parce que là on pourrait être en mode bah c'est très simple l'honneur, tu vois, enfin un moment donné. Mais le problème c'est que bah, t'as ta famille aussi en fait, donc
et quand oui. On dit ça, c'est vraiment des trucs, enfin si vous voulez, d'un côté il y a grosso modo 1 million et de l'autre il y a le fait que les gens vous respectent l'espace d'une soirée parce qu'ensuite ils auront oublié.
Et ouais, bah parce que on est all-in en fait, mais enfin, parce que en tant que fan, je respecterais beaucoup plus quelqu'un qui va à l'honneur. Anthony Smith, perso, en fait, respect éternel en fait, comparé à Aljamain Sterling. Mais donc, ça, c'est moi en tant que spectateur. Maintenant, est-ce que bah Anthony Smith, du coup, il a pu mettre sa famille à l'abri? Est-ce qu'il a pu vraiment être sécurisé financièrement?
Les hommes de coin, ton coach et tout.
Ouais.
Tu vois, de se dire qu'au moins les mecs les plus proches de toi dans ta carrière de combattant respectent ton choix. Et si ton coach te dit, bon bah là clairement, il a fait un coup illégal, tu. Voilà, et tu peux t'en sortir comme ça. Si ton coach te dit ça, ok. Parce que tu sais que la personne qui est potentiellement la plus proche de toi dans ta carrière sportive, elle a validé le truc et elle te respecte par rapport à ça, tu vois. Et du coup, vous pourrez tous les deux faire front par rapport au truc.
Ouais, ouais. Mais après, du coup, là, on est en mode un peu expérience de 1000 grammes où bah, tu te déresponsabilises toi-même en mode bah, vu qu'il y a eu la validation, c'est ok.
Non, moi, c'est pas du tout dans ce sens-là. C'est juste dans le sens où, comme quand nous, on prend des décisions et que je te pose la question. C'est plus dans le sens où je me dis, bon, si Rust, il est chaud, ça veut dire que même si on va prendre une décision qui est contraire à ce que tout le monde pense, au moins. Bah on avance avec ce truc là. C'est pas du tout se déresponsabiliser, c'est juste se dire, tu vois, même si par exemple ce serait chaud, imagine le gars là, il jette l'éponge, enfin il abandonne pas mais il gagne par disqualification, et même son propre coach, ses hommes de coin sont en mode, mais mec, pourquoi t'as fait ça, t'as aucun honneur. Les fans lui en veulent, l'organisation lui en veut, son corner lui en veut, et donc ça veut dire que même jusqu'à ce qu'il retrouve sa famille qui peut-être aussi est du même avis, zéro soutien. C'est plus dans ce sens-là. Alors que si tes coachs te disent, bah, t'as fait ce qu'il fallait, le mec en plus, il t'a explosé le crâne. Parce que oui, hein, Aljamain Sterling comme Anthony Smith, ils sont quand même pris un énorme coup de
pied. Ouais, c'est ça en fait. Parce qu'il y a l'honneur, d'accord, mais il y a aussi le fait que ça reste divertissement, d'accord, mais que c'est un sport et que tu viens de te prendre un énorme taquet avec tout ce que ça induit en potentielle répercussion neurodégénératrice, enfin, narrative, je sais pas quelle est la terminaison. Mais. C'est clair en fait, c'est-à-dire que là on n'est pas sûr, c'est de l'honneur, il a triché au jeu de loi, enfin c'est de l'honneur, mais si Aljamain Sterling arrête le combat, quoi qu'il se soit passé, quel que soit ce qu'ait fait Aljamain Sterling, on se comprend, quel que soit ce qu'il fait, il a quand même pris un énorme taquet quand même à la tête quoi. Donc l'honneur, ça dépend de quel côté il est quoi, parce que là l'honneur pour moi dans ces cas-là, il est aussi le manque.
Du côté
non,
de...
ouais, enfin c'est pas à nous de juger, tu vois.
Mais c'est compliqué.
Ouais,
c'est
voilà, compliqué. Celui qui met le, ouais, voilà, celui qui met le genou illégal, c'est peut-être plutôt lui sur lequel il faudrait taper les doigts plutôt que celui qui décide de clairement arrêter le combat, quoi. Donc c'est vraiment pas évident. C'est
moi,
vraiment
je mettrais une amende financière. Je mettrais une amende financière plus que des points de pénalité, parce que ce soit John Jones ou Yann, il gagnait très largement. Tu vois, John Jones, je me souviens, il a eu un point de pénalité. Il mettait des 19, des 18 à moitié à chaque round, donc ça ne changeait rien. Mm-hmm. T'es un truc comme ça, tu dis, bah t'as une amende de 300 000.
Ouf. Ouais.
Non, mais tu vois.
Oui, oui, bah là, c'est clair qu'il y aurait peut-être effectivement une emphase sur éviter les gestes illégaux. Quoi.
Ah, non, mais je veux dire, un éviter, mais du coup, c'est aussi tout le monde est content. Dans le sens, Anthony ouais. Smith peut finir le combat, mais se dit qu'il se prend quand même 300 000.
C'est vrai.
De toute façon, sportivement, c'était compromis. Il garde aussi le côté t'as l'honneur, mais bon, au bout d'un moment, l'honneur ne paie pas les factures, surtout à MMA où les gens ont quand même cette grosse culture de l'instant. Parce que juste après, Anthony Smith, quand il a perdu contre Glover Teixeira, c'était le mec qui était rincé, faut qu'il change tout. Enfin, mm-hmm. voilà. Et de l'autre côté, bah, John Jones, il est quand même puni à la hauteur de ce qu'il a fait. Parce que, bon, à un moment donné,
ouais.
Faut quand même taper aussi un. Enfin, que les gens se disent, on va pas mettre des. Des énormes trucs comme ça complètement incompréhensibles.
Mais en vrai, sans vouloir faire genre le youtubeur de base en mode pour créer de l'engagement et tout, mais vraiment je suis curieux de savoir, ben vous en commentaire si vous êtes toujours là à ce moment du podcast, ce qui est pas dit, mais qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là en fait, sachant que là, imaginons, vous êtes dans un cas où vous combattez pour le titre, mais vous êtes en train de vous faire battre, clairement, par le champion. Il y a moyen que vous n'ayez plus jamais une opportunité pareille, et que, comme vous allez probablement perdre quoi qu'il arrive, du coup, ben, vos salaires ne seront jamais non plus au point où vous allez devenir millionnaire comme vous l'espériez en commençant votre carrière de combattant. Est-ce que dans une situation comme ça, même si il y a l'honneur et vous voulez vraiment être quelqu'un de droit, etc., mais est-ce que vous... décidé, malgré tout, vous venez de vous prendre un énorme genou illégal dans la tête, qu'est-ce que vous faites en fait ?
Rust, tu fais quoi toi ?
Franchement, je sais pas.
Moi, si je me fais démonter, je suis en train de perdre vraiment, j'abandonne et je prends la ceinture. Si c'est 50-50 ou que je gagne, je continue.
C'est vrai.
Et toujours en regardant quand même mon corner pour voir un peu ce qu'ils disent. Mais si je me fais rétamer, clairement... Je joue la gagne parce que c'est mon seul moyen de l'emporter. Mmh. Donc c'est mon seul moyen de l'emporter. Et en plus, le mec a fait un truc qui était interdit. Si par contre, je suis en train de gagner, ou là, par contre, je poursuis.
Ouais. Je sais pas du tout. Parce que je vais pas du tout essayer de faire le mec en mode « Moi, je suis droit, c'est l'honneur, c'est machin. » Parce qu'on a tous envie d'être comme ça. Mais le truc, c'est que dans une situation comme ça, et en plus dans le feu de l'action, je pense que tout le monde bégaye, en fait. Donc je sais même pas.
Ah, Rust ne répond pas.
Bah, en fait, le problème, c'est que j'aurais envie de dire je continue, mais j'en sais rien. J'aurais envie de dire je continue parce que j'ai envie de croire que je pourrais être l'honneur, tout ça. Mais la vérité, c'est que j'en sais rien, quoi. Et qu'avant que la situation se présente, ça se trouve, le moment où ça se présente, direct, j'oublie, hein, ça se trouve. Donc je ne sais pas. Franchement,
non,
je ne sais
pas. Dans le sens où c'est quand même ok. Pas, le mec t'a mis un coup de genou, mais tu peux quand même continuer. On n'est pas du tout dans le côté le mec, tu vas te prendre un vrai énorme KO, tu viens d'être fait exploser.
Je
en mode Rémi Bandjaski, exactement comme.
En fait, le problème c'est que j'ai envie de dire je continue parce que je crois que je continue, mais la vérité c'est que je ne suis pas combattant pro. La vérité c'est que j'ai pas toute la pression qu'ils ont. Donc c'est très facile pour moi. Je pense que je continue, mais j'en sais rien, et c'est très facile pour moi de répondre, en fait. Donc j'ai envie de dire, je continue, parce que j'ai trop envie de combattre, etc. Mais dans le feu de l'action et en réalité, est-ce que je le fais? J'en suis même pas sûr moi-même, tu vois.
Faites comme moi, arrêtez-vous et sécurisez la revanche lucrative. À
bah ouais. Mais c'est intéressant, hein. C'est... Et franchement, si jamais vous êtes en commentaire dans le débat, vraiment dites, mais vraiment le plus
honnêtement possible.
Ouais, voilà.
Parce que c'est ça. Parce que bon, il y a pas mal de gars qui veulent moi l'honneur tous les jours.
Ouais, vous êtes vraiment des vendus, etc. Mais creusons tous vraiment là autant qu'on est sur vraiment, honnêtement, objectivement, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Sachant que ça, vous mettez vos enfants à l'abri à jamais, quoi.
Et puis il y a les blessures, il y a tous les trucs qui peuvent se passer qui font que.
Ta carrière peut s'arrêter juste après ce combat-là, et là tu fais. Et je suis sûr qu'en creusant, on peut en trouver des histoires comme ça.
Et puis aussi, tout dépend. Il y a un autre point qu'on n'a pas évoqué, mais tout dépend aussi de la rivalité avec le combattant, tu vois. S'il y a un mec où c'est vraiment. Tu l'apprécies pas particulièrement, qui vient de te mettre un truc comme ça, t'as pas forcément envie de lui faire plaisir aussi. Hein.
Ouais, et non, c'est clair.
C'est pour ça que tout le monde tremblait quand Anthony Smith s'est pris, parce qu'il se dit. Oh là là,
parce que ouais, il y avait déjà du trash talk, enfin pas trash talk, mais clairement les deux ne s'aimaient pas. Et donc c'est vrai que là il y a eu un gros moment de flottement en mode bah là, s'il veut, Anthony Smith est en mode t'as fait le malin, bah vas-y, maintenant c'est moi le champion. Mais il l'a pas fait. Et enfin, tu vois, c'est horrible parce que c'est tellement un move de chevalier de faire ça, quoi. C'est là où c'est dur. J'ai un respect, mais de ouf, pour Anthony Smith d'avoir fait ça, parce que putain, il a perdu pas mal lors de cette décision. Mais, bah voilà, c'est un putain de chevalier, quoi.
Exactement. Mais surtout, après, bon, plus globalement, Anthony Smith, c'est aussi un peu un company man de l'UFC. Hein. Il travaille aussi pour l'organisation en dehors des combats. Il est aussi présent lors des émissions de télé. Donc voilà, le podcast a duré bien trop longtemps. Ça devait être sur Pali de Bali Pimblett. Ensuite, c'est devenu un podcast sur Darren Till. Et finalement, sur le... Alors, doit-on ou pas gagner par disqualification?
Voilà, bah, c'est là où le vent nous mène, quoi.
Et peut-être plus globalement, la vraie réponse, on n'y a pas pensé. Mais c'est peut-être aussi surtout à l'arbitre de step up en premier. En
fait. Absolument, oui.
Pour moi, c'est plus ça, c'est tu laisses pas le choix tout simplement au combattant.
Ouais.
C'est tu vois le truc, tu dis bon, on disqualifie ou on disqualifie pas.
Mm-hmm.
Parce que je te rejoins complètement, c'est vrai que t'as raison, il y a tellement de paramètres différents. Il y a la gravité du coup, l'enjeu, le moment du combat aussi.
C'est tellement à considérer.
Si le truc a lieu dans les 30 premières secondes, forcément, ça n'a pas le même impact que si c'est dans les 30 dernières secondes du combat et que la tout est déjà fait, parce que là aussi, si le... et c'est peut-être pour ça aussi qu'à mon avis, Anthony Smith s'est à jouer, parce que je crois que c'était au 4e ou au 5e round, et
ouais.
Donc là, c'était clair et net, bah, il n'allait pas mettre John Jones KO,
ouais.
Il perdait complètement, donc bon, là c'était, j'allais dire un bitch move, non, mais c'est zéro honneur. Donc effectivement, je pense que ouais, la décision reviendra à l'arbitre. Bref, voilà, plutôt que de mettre un point de pénalité. Mon cher Rust, voilà, c'est terminé pour nous, il est 3h du matin.
Oh, shit.
Les mecs ont vraiment taffé. Demain, grasse mat ou pas, on verra. En tout cas, free demain matin. Big shout out à my sweet pea. Moins 40% sur tous mes protéines avec le col de la sueur. Vous voyez toute la superbe déco dessous. Mais ça fait plaisir parce qu'on peut enfin la mettre en avant.
Et il manque Saitama d'ailleurs.
Et il manque Saitama. Le studio est un work in progress pour l'instant. On s'y est installé hier. Là, on n'a même pas fini là pour rendre le truc présentable au niveau du podcast, mais ça avance. En tout cas, merci à vous parce qu'on a vraiment upgradé. Là, ça va être le studio d'enregistrement, mais là aussi, on va travailler avec le reste de l'équipe parce qu'attention, maintenant, la sphère, c'est une équipe. Donc voilà, donc en tout cas, merci. On avance bien. Et bah voilà, on a passé aussi, oui, j'avais oublié de le dire dans la précédente vidéo, on a passé les 80 000 abonnés.
Ouais, donc, voilà. Putain, et vite en plus. Hein.
Exactement. Donc la road to 50.
Allez, désabonnez-vous.
1, 2, 10, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, ça nous aide énormément. On s'en rapproche petit à petit. Et puis Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Allez, à très très vite pour de nouvelles aventures. Et puis voilà, see ya.
Fucking coming for you! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez La Sueur et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.